Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le gouvernement a dégainé l'arme du 49-3. Manuel Valls engage la responsabilité de son gouvernement sur la loi El Khomri. L'opposition a déjà déposé une motion de censure. C'est l'aile gauche du Parti Socialiste qui a provoqué cette accélération du calendrier d'Emmanuel Valls, dossier suivi par Christine Moncla. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'affaire Denis Baupin. Le député nie tout harcèlement sexuel et attaque la presse. Le parquet de Paris ouvre une enquête, nous dira Marie-Pierre Véraud. Et puis nous irons aux assises de Paris qui jugent deux bourgmestres rwandais accusés d'avoir directement éliminer des milliers de Tutsis en 1994, procès suivi par Catherine Dutu. 18h20 du grain à moudre, avec vous Hervé Gardette.
La Russie fait-elle à nouveau jeu égal avec l'OTAN? Nous en parlons avec Cyril Brett, Isabelle Lasserre et Jean-Sylvestre Montgrenier.
A tout à l'heure. La loi El Khomri fera-t-elle tomber le gouvernement? Pour l'instant, les choses n'en sont pas encore là, bien sûr, mais Manuel Valls a pris délibérément un risque cet après-midi en engageant la responsabilité de son équipe sur la loi El Khomri. Le Premier ministre a pris acte de la division de sa majorité. Les frondeurs restent totalement hostiles à ce texte. Voilà pourquoi Manuel Valls a engagé, c'était à peu près vers 16h tout à l'heure, la procédure du 49-3.
Aujourd'hui, au fond, deux formes de contestation, nous l'avons vu tout à l'heure, une sorte d'alliance des contraires du conservatisme se rejoignent. Il y a ceux qui voudraient nier le rôle même des syndicats,
Monsieur Chassaigne,
celui
Monsieur
des Chassaigne. Corps intermédiaires. Et ce serait aller à rebours de ce qu'est notre démocratie sociale. Et puis il y a ceux pour qui la décentralisation du dialogue social, la confiance donnée aux acteurs de terrain n'est pas un progrès et qui privilégie une vision centralisatrice dépassée. Il y a, c'est vrai, une vraie opposition sur la philosophie même du texte. Et nous l'assumons avec la ministre, avec fierté, dans l'intérêt même des Français. Poursuivre le débat parlementaire fait courir le risque de revenir sur l'ambition du projet de loi, de renoncer à sa cohérence, d'abandonner le compromis que nous avons construit et d'offrir le spectacle désolant de la division et des postures politiciennes dues à une minorité de blocage. Et tout cela, nous le refusons.
Manuel Valls, tout à l'heure, devant les députés. La droite a déjà déposé une motion de censure contre ce 49-3. Et visiblement, la gauche de la gauche s'interroge aussi sur l'opportunité d'un tel texte. Bonsoir Christine Moncla.
Bonsoir Tara.
Alors, vous rentrez de l'Assemblée nationale où l'ambiance était particulièrement houleuse tout à l'heure. La menace du 49-3 planait depuis plusieurs semaines autour de ce texte très critiqué, il faut quand même le rappeler, dans la rue, par les syndicats, puis par une partie des députés. Manuel Valls a donc dû reconnaître aujourd'hui son impossibilité à convaincre son propre camp.
Oui, car ce ne sont plus 30 frondeurs, mais bien 80 ou 90 députés socialistes qui se disaient prêts à voter contre ce texte. Mais cela, Manuel Valls ne veut pas le reconnaître en tant que tel. Dans un discours bref et tranchant, il minimise en parlant, on vient de l'entendre, de minorité de blocage et se pose, lui, au contraire, en homme du compromis. Il répétera ce mot compromis de nombreuses fois. Il rappelle que la version 1 du projet de loi avait été corrigée pour plaire à la gauche, que jusqu'au bout, il aura tenté de dialoguer en recevant encore ce matin une délégation de députés frondeurs en proposant que les accords de branche restent prépondérants sur les accords d'entreprise, mais qu'en face de lui, il n'avait que des gens avec une vision, je cite, dépassée. Alors après un examen houleux hier soir de l'article 1, le gouvernement a donc décidé de précipiter les choses et de ne même pas aller au bout du débat qui avait à peine commencé. Une esquive pour la droite qui y voit un manque de courage et une impuissance politique du gouvernement, un déni de démocratie tout simplement, disent les opposants de gauche. Mais au final, sur tous les bancs, ce recours au passage en force pourrait aussi arranger beaucoup de monde. Ceux qui, à gauche, craignant pour leurs futures investitures, n'auraient pas osé voter contre le texte. Et puis ceux dans l'opposition qui étaient un petit peu gênés de soutenir un projet du gouvernement.
Alors Christine, vous l'avez dit, du côté des soutiens de Manuel Valls, on s'insurge contre l'attitude d'une partie des socialistes qui refusent jusqu'au bout le compromis sur la loi El Khomri. Écoutez, le député socialiste Christophe Sirugue, rapporteur de la loi Travail que vous avez rencontré tout à l'heure.
L'attitude qui a été adoptée hier, c'est ça qui déclenche le fait que le 49-3 soit choisi aujourd'hui. Il ne faut pas inverser les choses. Hier, ce qui s'est passé pendant l'examen en séance, c'est très clairement un positionnement politique qui n'avait rien à voir avec l'article dont on débattait. Qui fait que si nous avions dû poursuivre ce travail-là encore aujourd'hui, on aurait eu la même logique. Donc si vous voulez, à partir du moment où une partie de mes collègues ont choisi de ne pas être sur la discussion des articles, mais sur systématiquement des prises de position générales, Il n'y avait pas d'intérêt à examiner. Donc, il ne faut pas inverser. Ce n'est pas le fait que le 49-3 arrive aujourd'hui qui empêche le débat. C'est le choix qui a été fait par certains de mes collègues hier soir qui a empêché qu'on puisse poursuivre.
Le député socialiste Christophe Sirugue, alors la droite a donc déposé sa motion de censure, je le disais tout à l'heure, et le chef de file du groupe Front de Gauche, André Chassaigne, va lui aussi essayer maintenant de réunir assez de signatures pour déposer également une motion. Pour lui, le 49-3 est tout simplement un coup de force.
Nous ne voulions pas du 49-3. Nous n'en voulions pas. Voulions le débat. Face à ce coup de force, nous appelons tous les opposants de gauche à la dérive libérale de ce gouvernement à se réunir pour déposer ensemble une motion de censure de gauche. Le gouvernement n'a plus de majorité, y compris à gauche. Il est temps aujourd'hui de renvoyer dans ses foyers le Premier ministre et ses ministres qui mettent en application une politique de droite. Il est temps d'avoir un gouvernement qui mette en œuvre une véritable politique de gauche telle que l'ont voulu les Françaises et les Français qui ont porté la présidence de la République François Hollande en 2012 et une majorité de députés de gauche. Il faut enfin mettre en accord la politique conduite par un nouveau gouvernement avec ce qu'attend la majorité des Français et avec ce qu'attend en particulier le peuple de gauche.
Le député communiste André Chassaigne au micro de Christine Moncla. Merci Christine. Alors les réactions, évidemment, n'émanent pas seulement du monde politique. Ce soir à Paris, place de la République, le mouvement Nuit Debout envoie un communiqué, ce déni de démocratie après un mouvement social qui a regroupé des centaines de milliers de personnes dans la rue, dans les entreprises, les universités, les lycées et sur les places de France. Ce déni de démocratie donc est une insulte au peuple de ce pays. Fermez les guillemets. Et puis du côté des syndicats, bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir.
On peut s'attendre à des réactions vives. Il faut rappeler que la loi El Khomri, qui a également, on s'en souvient, réuni plus de 1 300 000 signatures contre elle au moment de la pétition. Cette loi est contestée dans la rue par les syndicats de salariés et par les syndicats qui représentent les étudiants et les lycéens depuis 2 mois et demi. Et ce jeudi, Annabelle, eh bien, une manifestation est encore prévue.
Oui, la CGT, première à réagir, parle de véritable honte. L'utilisation du 49-3 pour faire adopter une loi rejetée par plus de 70% de la population est inadmissible. Cette décision ne vient que s'ajouter à un processus antidémocratique depuis le début, poursuit-elle. Faut-il rappeler la non-consultation des organisations syndicales avant l'écriture du texte, les rencontres éclairs avec la ministre du Travail, le blocage des votes à l'Assemblée nationale. La CGT condamne donc ce déni de démocratie et la brutalité affichée par le gouvernement. Elle annonce qu'elle poursuivra et amplifiera la mobilisation et appelle à tous les salariés à s'inscrire dans le mouvement, se réunir à l'Assemblée générale pour décider ensemble de la poursuite donc de la mobilisation jusqu'au retrait. Et pour un code du travail, dit-elle, du 21e siècle. Plus que jamais, l'urgence est à la mobilisation. Pour Jean-Claude Mailly, de Force ouvrière, ce passage en force est dramatique pour la démocratie. Pour un gouvernement qui se dit partisan du dialogue social, c'est un zéro pointé. Jean-Claude Mailly qui réitère sa demande de référendum sur si ce gouvernement est persuadé que cette loi est bonne, qu'il ait le courage de le demander aux Français. La CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaire et les organisations de jeunesse UNEF, UNEL et FIDEL ont appelé à une nouvelle mobilisation nationale donc jeudi pour réclamer le retrait du texte. Toujours, une intersyndicale doit se tenir dans la soirée pour décider donc de la suite et de la forme que devra prendre cette mobilisation contre la loi travail.
Alors encore un petit mot, Annabelle Grelier, sait-on finalement quelle version du texte va être adoptée probablement grâce au 49-3?
On aurait quelques détails ce soir. Le gouvernement renoncerait sur le périmètre géographique des licenciements économiques et sur la surtaxation des CDD, mais resterait ferme sur les accords d'entreprise. Sur les licenciements économiques, l'exécutif renonce à introduire un critère national et revient au droit actuel qui retient une appréciation au niveau mondial, précise-t-on dans l'entourage de Manuel Valls. Concernant la surtaxation des CDD envisagée via un amendement gouvernemental, le sujet serait renvoyé aux partenaires sociaux. Et sur l'article 2 du texte, considéré comme le cœur nucléaire de cette loi, le gouvernement ne retiendra pas l'ultime compromis proposé lundi par le reporter Christophe Sirugue pour tenter donc de parvenir à un accord avec les députés socialistes opposés au texte. L'article 2 resterait donc inchangé sur la hiérarchie, l'inversion de la hiérarchie des normes. Pas de compromis sur l'entourage de Manuel Valls.
Merci beaucoup Annabelle Grelier. On aura évidemment l'occasion de revenir sur ce texte et puis sur le 49-3 qui devrait normalement être voté, je crois, jeudi prochain.
L'autre grand sujet qui a beaucoup animé l'Assemblée nationale aujourd'hui, eh bien, ce sont les suites de l'affaire Baupin, suite judiciaire à présent, car le député écologiste de Paris, accusé de harcèlement sexuel par 8 femmes, a décidé de contre-attaquer. Bonsoir Marie-Pierre Viraud.
Bonsoir Tara.
On note un double mouvement, donc à la fois le parquet de Paris qui se saisit de cette affaire, qui va lancer une enquête, et puis, je le disais, Denis Baupin qui nie les faits et qui attaque les médias.
Et oui, l'affaire reste politique. Elle s'élargit même au-delà du cas Baupin à la question de l'omerta sur ses agressions et violences sexuelles ou à caractère sexiste dans les partis politiques en particulier et dans la société en général. Mais elle se déplace en effet aussi ce mardi sur le terrain judiciaire, avec d'une part, vous le disiez, cette ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris qui s'est auto-saisie, comme cela lui est possible, même si aucune plainte n'est déposée, ce qui est le cas actuellement quand une affaire a un important retentissement médiatique. Le procureur précise que sa démarche fait suite aux allégations parues dans la presse, portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle, harcèlement sexuel, appel téléphonique malveillant. L'enquête va donc s'attacher à recueillir les témoignages des victimes présumées, à vérifier, nous dit le parquet, les dates et lieux de la commission des faits allégués et à entendre tout témoin utile. Pour l'heure, les faits rapportés sont prescrits. La prescription est en effet de 3 ans pour les agressions et le harcèlement sexuel et de 10 ans pour les viols. Un texte en discussion en ce moment doit doubler ces délais. Il s'agit donc pour la justice d'établir les faits et peut-être aussi d'entendre de nouveaux témoignages sur des faits qui, eux, ne seraient pas prescrits. De nombreux élus écologistes, notamment, incitent d'ailleurs à cette libération de la parole. L'autre logique que l'on a vue à l'œuvre aujourd'hui, c'est celle de Denis Baupin, et qui est d'établir son innocence, en tout cas à ce stade de l'affirmer. Son avocat dénonce le caractère mensonger des accusations. Il annonce le dépôt d'une plainte pour diffamation publique contre France Inter et Mediapart, les 2 médias qui ont publié les témoignages de ces 8 femmes, dont 4 s'expriment à visage découvert. Une stratégie de contre-attaque qui pourrait être assimilée à une démarche de dissuasion à l'égard de médias qui entendraient relayer les accusations. Des accusations qui en tout cas se multiplient depuis hier, alors que le parti ne fait lui guère montre de soutien envers Denis Baupin.
Merci beaucoup Marie-Pierre Viraud. Le chômage, on le sait, est l'un des fléaux de notre société auquel le gouvernement ne sera pas parvenu à s'attaquer depuis le début du quinquennat. François Hollande a promis une inversion de la courbe qui ne vient pas. Le Conseil économique, social et environnemental s'est penché sur ce phénomène de masse, parce que 3,5 millions de personnes au sens strict des chômeurs de la catégorie A sont touchés. En réalité, on parle peut-être plutôt de 5,5 millions de chômeurs si on inclut les personnes qui ont une activité réduite. Alors le CESE est chargé d'une étude sur l'impact de l'absence de travail sur la santé des gens. Bonsoir Mélanie Barbotin.
Bonsoir Tara.
Et pour les experts du Conseil qui se sont appuyés sur toute une série d'études déjà existantes, eh bien on peut dire pour eux que le chômage est un problème majeur de santé publique.
Les chômeurs ont 3 fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire et même d'être atteints d'un cancer. Aussi troublant que cela puisse paraître, les chercheurs de l'INSERM, l'Institut National de la Santé, sont catégoriques. 14 000 personnes meurent chaque année en France à la suite d'un licenciement. C'est 5 fois plus que le nombre de morts sur la route. Et c'est bien le chômage le responsable pour Pierre Meneton, chercheur à l'INSERM.
Nous ne retrouvons pas chez les retraités et les personnes au foyer les problèmes de santé que l'on retrouve chez les chômeurs. Donc c'est bien la condition de chômeur qui semble poser problème, induisant un certain nombre de problèmes de santé. Alors comment ? D'une part, alors chez les chômeurs, on retrouve un certain nombre de facteurs de risque. Le tabagisme qui est plus fréquent, l'inactivité physique, hein. Les chômeurs sont en moyenne plus sédentaires que les travailleurs. Et donc, associé à ça, un taux d'obésité qui a tendance aussi à être plus élevé. C'est des facteurs de risque, par exemple, de problèmes cardiovasculaires ou de cancer.
Pourtant, les personnes sans emploi ont du mal à pousser la porte d'un cabinet médical, remarque Michel Debout, auteur d'un ouvrage intitulé « Le traumatisme du chômage ». Il est lui-même psychiatre au centre hospitalier de Saint-Étienne. Parmi ses patients, il y a des chômeurs, souvent venus le voir après une tentative de suicide.
Au début, évidemment, il y a la sidération, plutôt des troubles du type perte de sommeil, irritabilité, perte d'appétit. Cette situation qui s'installe, en tout cas que j'ai retrouvée chez beaucoup de chômeurs, c'est l'idée que les journées vont se passer sans but. Et c'est terrible de se réveiller le matin en se disant « je n'ai rien à faire ». Et en plus, on ne veut pas de moi. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Finalement, la personne, eh ben, elle va tourner en rond. Chez elle, avec sa robe de chambre. Et c'est ce que j'ai appelé le signe de la robe de chambre. Quelqu'un qui n'a même plus à s'habiller pour passer sa journée parce qu'il ne se passera rien dans cette journée.
Une situation qui favorise le passage à l'acte. Chaque année, près de 600 personnes se suicident après la perte de leur emploi. En prévention, le Conseil économique, social et environnemental souhaite la mise en place d'un suivi psychologique et médical obligatoire pour tous les chômeurs.
Merci Mélanie Barbotin. Ouvrons maintenant la page judiciaire de cette édition avec d'abord ce procès qui nous replonge dans le drame du génocide au Rwanda il y a 22 ans. 800 000 Tutsis au moins ont été à l'époque éliminés par des Rwandais Hutus. À Paris, devant une cour d'assises, sont jugés à partir d'aujourd'hui et pendant 8 semaines, deux bourgmestres, en français on dirait plutôt deux maires, qui ont administré chacun à leur tour une commune située dans l'est du Rwanda. Bonsoir Catherine Dutu.
Bonsoir Clara.
Vous êtes en direct des Assises de Paris. Alors les deux accusés, qui étaient donc bourgmestres de Kabarondo, auraient, c'est ce que disent en tout cas les rescapés, participé directement au massacre de centaines et peut-être de milliers de Tutsis en avril 1994. Alors comment ces deux hommes sont-ils apparus pour l'instant aujourd'hui à leur procès ?
Ils n'ont pas encore quitté le box des accusés et ont simplement décliné leur identité. Tito Barahira, 64 ans, retraité, moustache et cheveux grisonnants. L'ancien bourgmestre de Kabarondo, qui doit être dialysé 3 fois par semaine, est assis dans un fauteuil bleu plus confortable que le banc en bois où se tient son co-accusé, son successeur à la tête de la commune rwandaise, Octavien Genzi, 58 ans, chemisette bleu foncé, ancien ingénieur forestier. Les deux hommes qui ont toujours nié les faits qui leur sont reprochés se sont dit prêts à répondre aux questions posées au cours de ce procès qualifié d'historique par la présidente. Des accusés très concentrés pendant les débats techniques qui ont eu lieu toute la journée. Leurs avocats ont déposé 2 requêtes. La première pour avoir un supplément d'informations. La défense n'a pas pu procéder directement au Rwanda à des auditions contradictoires des témoins. C'est le combat du tigre contre l'âne ficelée, a déploré maître Françoise Matz, conseil d'Octavien Genzi. Des témoins vont donc venir à la barre raconter ce qu'ils croient avoir vu il y a 22 ans, rajoute l'avocate. Des témoins peut-être sous la pression directe du pouvoir à Kigali, une dictature sanglante, a estimé maître Matz. Manœuvre dilatoire, ont rétorqué d'une même voix les avocats des partis civils et l'avocat général. Manœuvre qui n'ont pour but que d'inoculer le poison du doute dans l'esprit des jurés. La requête de la défense visant à suspendre le procès a finalement été rejetée par la cour, tout comme une autre requête pour ne pas entendre 2 témoins anonymes. Une première journée d'audience donc qui a donné un avant-goût des plaidoiries à venir.
Merci beaucoup Catherine Dutu en direct des Assises à Paris. En bref, ce procès en appel dans l'affaire Bettencourt à Bordeaux. 4 des 8 condamnés l'an dernier pour avoir abusé de la faiblesse de la milliardaire sont jugés en appel. François-Marie Bagné, qui a écopé en première instance de 3 ans de prison dont 6 mois ferme, de 350 000 euros d'amende et de 158 millions de dommages et intérêts, a donc fait appel, tout comme son compagnon Martin Dorgeval ainsi que l'avocat Pascal Wilhelm et le notaire Patrice Bonduel. On part maintenant pour le Luxembourg où s'achève le procès des lanceurs d'alerte qui ont fait émerger le scandale du LuxLeaks. Antoine Deltour et Raphaël Allé comparaissent aux côtés du journaliste Édouard Perrin pour avoir fait fuiter des documents du cabinet d'audit dans lequel ils étaient employés. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Tara, bonsoir à tous.
Alors ces fuites ont mis au jour, on peut le rappeler, les pratiques des multinationales qui bénéficient d'avantages fiscaux très importants au Luxembourg avec l'aval bien sûr des autorités du Grand-Duché. Ça a suscité un scandale international. La justice vient donc de prononcer ses réquisitions à l'encontre des 3 prévenus, Quentin. Réquisitions sévères, elle réclame la prison. Le procureur parle de peine exemplaire, Quentin.
Oui, les avocats de la défense avaient plaidé la responsabilité morale du tribunal qui se grandirait, selon eux, en accordant la relaxe aux 3 prévenus. Mais le procureur d'État n'en démord pas. Tous 3 ont violé la loi, ce qui ne conteste pas, et par conséquent, ils doivent être sanctionnés. Ils réclament donc 18 mois de prison ferme, assortie d'une amende financière, à l'encontre des 2 anciens salariés de PwC, Antoine Deltour et Raphaël Allé. Une amende, elle aussi d'un montant non précisé, est requise vis-à-vis du journaliste Édouard Perrin. Le réquisitoire du procureur s'est cependant avéré assez nuancé. Ainsi, même s'il ne reconnaît pas à Deltour et à Allais le statut de lanceur d'alerte, il souligne que leurs révélations ont permis de mettre au jour, je cite, « des pratiques fiscales douteuses ». De même, il a félicité le journaliste de la qualité de son travail, je le cite encore, et de son opiniâtreté. en précisant qu'il ne devait d'avoir été traduit en justice qu'aux déclarations initiales de son informateur allaient devant la juge d'instruction, déclaration rétractée à l'audience par l'intéressé. Enfin, il dit ne pas s'opposer à ce que les peines soient assorties d'un sursis général. Une dernière audience, demain après-midi, permettra d'entendre les prétentions de la partie civile, c'est-à-dire de la multinationale PwC, avant une courte réplique des avocats des trois prévenus.
Merci beaucoup, Quentin Dickinson. Le temps demain en France, une nouvelle dégradation attendue dans le sud-est. Beaucoup de pluie, annonce Météo France. Les températures seront toujours douces. Il fera 13 à 15 degrés dès le matin. À 22h, prochain journal de la rédaction présenté par Raphaël Godet.